RMC, entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, les poteaux dans les starting blocks de cette saison 2026-2027 qui approche à grands pas. On vous rappelle, coup d'envoi, première journée du top 14 le samedi 5 septembre avec un programme un peu particulier, on vous le dit si vous ne savez pas, si vous êtes encore un peu en vacances. 5 matchs en multiplex le samedi, mais à 19h, hein, Bayonne-Toulon, Castres-Vannes, Lyon-Clermont, Montpellier-Pau et Stade Français Perpignan, multiplex évidemment spécial à suivre sur RMC, et deux matchs décalés, donc le samedi soir, samedi 5 septembre à 21h15, horaire un petit peu spécial aussi, UBB Racing, et le dimanche soir pour clôturer ce premier week-end à 21h05 à Marcel de Flandre, Stade Rochelet, Stade Toulousain. Mais les poteaux, aujourd'hui, vont au-delà du top 14, même si cette saison sera un fil rouge en fait, parce que nous sommes fin août et dans un an, on ne sera pas loin d'avoir, ou on l'aura, on attend évidemment le calendrier officiel, la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde en Australie. Donc évidemment, on va se poser la question, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'est une saison spéciale d'avant Coupe du Monde, donc on va se pencher là-dessus. Et des listes comme ça, ça tombe bien. On connaît quelqu'un qui en a vécu deux, si je compte bien. 2007 et 2011, il va pouvoir nous en parler. Cédric Emmans est entre les poteaux, et je vais y arriver, est avec nous entre les poteaux. Salut Cédric Emmans.
Bonjour à tous. Alors exactement, je vais te reprendre de suite, j'en ai connu trois, mais il y en a une où je ne faisais pas partie de la liste. Voilà.
Bah, j'ai pas voulu, tu vois, j'ai pas voulu en parler. C'est 2003 ?
Exact.
Ouais. Voilà, c'est bien que t'en parles, mais bon, tu vas pouvoir nous expliquer un peu tout ça, comment on vit cette saison. Et pour parler, évidemment, parce qu'on va se pencher sur les Bleus, sur ces mois qui vont précéder la Coupe du Monde, Julien Landry est aussi avec nous entre les poteaux. Salut Julien.
Salut messieurs, salut poteaux, salut Cédric.
Une grande saison qui s'annonce justement. Et Julien sera aux premières loges pour la suivre parce qu'on est sur la ligne de départ, objectif Australie.
Avec la chistera de Dupont qui était collé au mol et la passe au pied de Mathieu Jalibert dans les bras d'Atisogbe ou pas. Eh oui, le doublé de Théo Atisogbe.
On a essayé d'ouvrir l'équipe de France à la concurrence, à l'émulation, à la compétition en interne.
Barassi dans le dos pour Ramos, la passe au pied vers Gaël Dréan, il va récupérer le ballon.
L'essai
de Gaël Dréan.
Les joueurs qui ont vécu l'expérience, on va dire l'expérience il y a deux ans, il y a quand même une grande majorité de joueurs qui sont toujours en capacité de jouer en équipe de France.
Allez, Bielbiara qui va courir ce ballon, s'il a le bon rebond, ça pourrait être pas mal, il est passé, oh, lancé, il marque l'essai, encore une masterclass.
Nous sommes tournés vers le futur, le passé nourrit une expérience formidable sur le fond comme sur la forme à traverser, qui construit, qui fait avancer vers la suite qui est en fait le présent bien sûr.
Thomas Ramos, qui s'élance, ce ballon, tournoi Destination 2026.
Voilà, évidemment, on s'attend encore aux aventures du 15 de France cette saison. Année particulière, on le disait. Grande saison de tous les internationaux à venir. Moi, je l'annonçais un peu comme ça. Cédric, est-ce que tu le penses? Que quoi qu'il arrive, on aura de grandes performances de la part des 50 qui vous plaisent peut-être plus hein, sur les listes du squad, du staff pardon, de l'équipe de France. On aura une grande saison de tout le monde.
Oui, il va falloir qu'il se régénère. L'été est passé par là. Après, elle va jouer en deux temps. Il va y avoir les premiers matchs au mois de novembre de l'équipe de France. Après, il va y avoir le tournoi qui va un peu décider vraiment la liste. C'est compliqué parce qu'il faut être prêt, mais pas trop tôt. Il va y avoir la gestion physique de la part des internationaux, la gestion psychologique aussi, parce que ceux qui sont pratiquement sûrs de partir en Coupe du Monde, eux, ils vont se consacrer un peu plus au club, je vais dire. Mais les autres qui doivent prouver très rapidement pour entrer dans cette liste, c'est particulier. Donc oui, le niveau de jeu, généralement, avant les Coupes du Monde, en top 14, augmente.
Y penser ou pas trop y penser, mais c'est difficile à gérer, non, Cédric? Tu disais que tu l'as vécu. Est-ce que tu l'as vécu différemment à chaque fois sur ces 2003, 2007, 2011, 2003 où tu n'as pas fait partie de la liste, mais les deux autres, oui. Comment ça, on traverse cette saison avec ça? C'est dans un coin de la tête, c'est prégnant, c'est gênant aussi des fois.
Ça peut l'être gênant quand on y pense beaucoup. Moi, je sais qu'en 2003, j'étais pas en équipe de France, je faisais des allers-retours. Et je me suis surentraîné, qui a déclenché chez moi une blessure, parce que j'avais ça en tête. En 2007, j'étais un peu plus installé, on va dire, en équipe de France. Donc, quand j'ai appris la nouvelle par Joe Mazo, qui m'avait appelé quelques heures avant l'annonce officielle de la Coupe du Monde, c'était alors pas une surprise, mais je pensais vraiment y être. Et 2011, c'est la grosse surprise, puisque pour rappel, je fais pas le tournoi d'avant, je suis sorti du groupe, les tests de novembre avant, je suis un peu dans le déclin physique, moralement pas trop prêt, et cette Coupe du Monde, je l'attends pas, mais elle reste dans un coin de ma tête. Et je sais que grâce à Jean Baïlissal, Guy Noves, qui m'ont remis la tête à l'endroit, ils m'ont dit tu peux l'accrocher, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il y a deux aspects. Quand vous êtes sûr d'y être, ben, c'est moins contraignant. Par contre, quand vous devez prouver, ça peut hanter les nuits. Ouais.
Peut-être bien d'avoir raté le tournoi de Milan, Cédric, pour le coup, parce que certains joueurs, moi, oui, y ont laissé des plumes.
moi, rigole. Écoutez-le comme elle rigole, en plus. C'est pas sympa pour les copains de l'époque. Ouais.
C'est vrai, mais bon,
c'est pas raté celui-là, c'est ça, de mémoire.
Des fois, ne pas jouer, c'est se rendre service.
Yannick Jozion, malheureusement, après l'Italie, a dit adieu à l'équipe de France.
Ouais. Ouais. Clément Poitrono aussi, peut-être, je crois. Ouais.
Sébastien Chabal.
Juste avant, Julien, juste avant que tu donnes ton avis, te poser une question. Écoute ça, on réécoute ça.
Nous sommes à tourner vers le futur. Le passé nourrit une expérience formidable sur le fond comme sur la forme à traverser, qui construit, qui fait avancer vers la suite, qui est en fait le présent, bien sûr.
Vous avez 2 heures.
Le présent du futur, passé composé.
Alors, Julien ?
Ça, pendant un an, ça m'avait pas manqué, tu vois, pendant un an, entendre les sorties de Fabien, là, ça...
Fallait pas te conditionner ça comme ça, difficile. Julien, en fait. Mais qu'est-ce que t'en déduis, Julien ?
Je sais pas où il a voulu aller, là, le passé, le présent, l'expérience. Non, mais je sais pas. Quand je l'ai écouté dans la promo, déjà, je me suis dit, où il va ? Et en le réécoutant, j'avais toujours pas plus d'idées.
Le passé va construire son groupe, le présent, c'est son groupe actuel. Et le futur du passé, c'est ceux qui vont rentrer, qui n'étaient pas là. Et qui
en gros, la porte est ouverte à tout le monde.
Voilà, Cédric et Nance.
Un résumé.
Ah, mais pour répondre à ce que disait Cédric, je pense que ça dépend. Il y a deux types de joueurs qui vont être concernés. Il y a Antoine Dupont, Romain Tamac, Mathieu Jalibert, qui ne vont pas se soucier... entre guillemets trop de la liste, un peu ce qu'a vécu Cédric en 2007. Il sait qu'ils vont y être dans la liste à la Coupe du Monde, même s'ils font et par contre t'as des jeunes joueurs, je pense par exemple à Lenny Nouchi, on en parlera tout à l'heure, mais avec l'affluence de joueurs en troisième ligne, Lenny Nouchi va vouloir se montrer chaque week-end sans la garantie d'y être. Donc je pense qu'en fonction de l'expérience que t'as, du fameux vécu collectif commun que t'as avec ce groupe France, t'abordes pas la saison de la même manière. Je pense que Thomas Ramos, il a déjà pris son visa pour l'Australie, par exemple.
Il y a des joueurs, ça peut poser question, hein, quand on au centre. Il y a une telle concurrence, ça,
on va l'évoquer,
je pense que ça va être costaud. Un Damien Penaud qui a été sorti puis revenu, il y a Brennan aussi qui n'a pas fait parce qu'il était blessé la tournée. Ces joueurs qui ont besoin de gagner alors j'ai pas envie de dire en crédibilité, mais en assurance ou rassurer le coach, eux, il va falloir qu'ils démarrent très très fort, mais la saison est longue, donc il peut tout se passer.
Julien, doit-on attendre des clubs qu'ils aident les Bleus en cette saison si particulière? Alors, on entend souvent les managers, hein, qui a déjà tout à disposition des Bleus, 15 jours de préparation.
Je trouve qu'ils en font déjà beaucoup. Je trouve qu'ils aident déjà beaucoup l'équipe de France. Je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus.
Gérer les temps de jeu en relation avec le staff?
Non.
Oui, mais là, sauf que la grosse différence, c'est que tu vas avoir la coupure de l'intersaison, juillet. Tu aurais la Coupe du Monde à la place du tour en destination, je te dirais oui, il faut gérer. Là, ils vont faire une saison.
Oui, c'est octobre-novembre.
Oui, ils vont couper et ils vont redémarrer et ils seront pour le coup à disposition de l'équipe de France et ils ne retourneront pas en club. Donc honnêtement, les clubs, ils font déjà beaucoup pour les... Je vois pas ce qu'ils peuvent faire plus cette saison. Biel Biarré, c'est quoi? Lui faire jouer 5 matchs de moins en sachant qu'il aura quand même malgré tout sa coupure l'année prochaine cet été et qu'il sera à disposition de l'équipe de France pour refaire une préparation physique. Je vois pas trop ce que les clubs peuvent faire cette saison pour aider encore plus les Bleus.
Cédric.
Oui, puis le championnat va rester au mois de juin. C'est comme s'il y avait une intersaison, sauf que l'intersaison, ils vont la vivre avec l'équipe de France. Moi, il faut rien attendre de la part des clubs. Et moi, je serais manager, je défendrais l'intérêt du club avant celle de l'équipe de France. Bien sûr, ils sont mis à disposition, ils n'ont jamais été autant mis à disposition, mais il y a un intérêt.
Oui, Cédric, mais ce sera toujours moins que l'Afrique du Sud, que la Nouvelle-Zélande.
Oui, mais ça, on ne peut pas se battre à armes égales, on le sait. Donc,
oui, mais on peut ne jamais être champion du monde parfois aussi. Oui, on ne l'a jamais été d'ailleurs.
Oui, mais qu'est-ce qu'on veut alors? Si on veut que nos joueurs soient champions du monde, faut les mettre encore un peu plus à disposition, mais ils sont plus à disposition que les autres et les résultats ne sont pas là. C'est une balance qui est dure à trouver. Hein. Mmh.
Mais là, les Anglais ont été champions du monde. Les Anglais ont été champions du monde sans forcément privilégier la sélection anglaise en 2003. Hein. Les joueurs jouaient beaucoup, donc je pense que voilà, il y a aussi moyen. C'est pas parce qu'ils vont moins jouer en équipe de France qu'ils peuvent pas récupérer les chandelles, par exemple. Tu vois,
on s'améliore, on va en parler.
Important, ça va être la coupure pour les joueurs après la finale ou un peu avant. Voilà. Il peut y avoir une arrivée, une préparation physique un peu décalée pour certains, parce que, je vous le redis, il y a juillet-août, voire début septembre, qui va passer dans la préparation.
Encore que la Coupe du Monde est un peu décalée par rapport, souvent c'était début septembre, là c'est début octobre. Donc voilà.
Ce que peuvent faire les clubs, c'est que tu vas voir Hugo Mola et tu lui dis bah, cette saison, vous ne qualifiez pas en phase finale.
Voilà,
ça arrange 7e, et ça arrange très bien, ça arrange Fabien Galthié et l'équipe de France, elle est ravie parce que les joueurs de Toulouse, ils sont en vacances plus tôt. Voilà ce que peut faire le Stade Toulousain, par exemple.
Alors,
ils proposent, ils leur demandent.
Ouais, je vais pas m'essayer, d'accord. Des moments clés dans cette saison des Bleus, le programme justement, on vous le redonne pour que vous ayez les idées claires. Vous qui avez encore du sable entre les doigts de pied et du sel sur les épaules comme Cédric Emmons qui sort de la plage. France cet automne, France Fidji, samedi 7 novembre à Lyon. France-Afrique du Sud, attention, vendredi 13 novembre, ce sera le vendredi soir au Stade de France. Et France-Argentine le samedi 21 novembre au Stade de France également. Et selon le classement, donc c'est la nouveauté de ce championnat des nations, le dernier week-end de novembre, samedi 28 ou dimanche 29, on va dire, pas le, parce qu'il y aura des matchs le vendredi soir, mais vu le classement des Bleus qui sont en tête de l'hémisphère nord, on imagine une place deuxième ou premier. Et vous savez, ou vous ne savez pas, mais on vous le dit, que le deuxième du Nord rencontre le deuxième du Sud. Et c'est pareil pour le premier. Donc, trois jours de match de classement à Twickenham en dernier week-end de novembre pour gagner ce championnat des nations. Puis ensuite, le tournoi dans l'ordre pour les Bleus. France-Pays de Galles, Angleterre-France, France-Écosse, Italie-France et un dernier match en Irlande. Cédric, qui, selon vous, part titulaire pour la Coupe du Monde sur en Australie,
alors,
j'attends vos noms.
Alors déjà, il n'y a que le dernier tournoi qui va compter, je peux vous le dire. Voilà, c'est le dernier tournoi destination qui va entériner vraiment la liste et les surprises peuvent arriver.
Enfin, Julien l'a dit tout à l'heure, il y a quelques noms.
Cédric, si jamais les Français ils font une grosse performance en novembre, alors je ne dis pas qu'ils étrient l'Afrique du Sud.
Très bien, je suis d'accord avec toi.
Une grosse performance contre l'Afrique du
Sud. Qu'on peut jouer deux fois, Julien, au Stade de France et à Londres en finale de ce championnat.
Je me dis que cette équipe-là qui bat l'Afrique du Sud, elle aura peut-être aussi des points d'avance pour effectivement jouer au tournoi, mais ils peuvent marquer des points en novembre en vue de la Coupe du Monde.
Il y a 70% de la liste qui sera faite et après il y aura les surprises.
Oui.
Il y a toujours surprise. Moi, qui part de sûr, j'en ai trois.
Que trois?
Dupont, Ramos, Bielbiaré. Pour moi, ils sont indiscutables. Après, il y a des joueurs qui vont partir, mais je ne les mets pas dans mes têtes d'affiche. Je pense à Romain Tamac, Jalibert, Flamand.
Mais Flamand, tu ne le mets pas. Mais si.
Ben, j'ai le droit de ne pas le mettre.
Allez, premier débat. Je ne sais pas, alors, deux contre un, Julien, t'en penses quoi?
Il y a Movaca Marchand.
Oui, mais à coup sûr.
Oui, mais il n'y a qu'un numéro 2, hein, après l'autre, c'est le 16. Hein,
oui, donc, mais Movaca Marchand, les deux, ils seront 2 et 16. 16-2, 2-16.
Ce que je veux dire par là, c'est que eux, je suis sûr qu'ils sont sur le terrain. Voilà.
Eux, je suis persuadé.
Ah ouais, persuadé.
Mais pas Flamand.
Flamand, tout dépend ce qu'il va vouloir faire entre seconde ligne, troisième ligne. Je ne sais pas ce qu'il peut avoir dans la tête. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Il n'y a pas de débat.
Non, mais il est deuxième ligne depuis longtemps, Thibaut Flamand.
Oui, Cédric. Mais je pense qu'il peut y avoir justement des surprises, des rotations sur ce paquet d'avant.
C'est une info ou un ressenti?
Un ressenti d'info.
Non, mais je pense que JB Gros à gauche, Cédric a pris a pris la mesure du poste de pilier gauche aujourd'hui.
Oui, je le redis.
Si je suis d'accord que,
Poirot
au pouce derrière, Poirot arrive. Mais je pense que JB Gros, depuis 2-3 saisons, s'est imposé en tant que numéro 1. On verra ce que va faire Reda Wardy en venant à Montpellier. Mais je pense que JB Gros a aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on parle, une certaine avance pour être le titulaire en puissance en poste de numéro 1.
Je suis d'accord avec vous donc sur ces... Bon, on est plus ou moins d'accord. Hein, de 1, vous l'avez compris. Avec Gros, avec Flamand. Moi, je vous signe demain que Flamand est un titulaire indiscutable, mais ce n'est que mon avis, c'est un ressenti d'info aussi, Cédric. Chacun ses ressentis d'info.
Je pense que Méafou, Dupont, je ne vois pas qu'il y a un 5 costaud
encore
comme
que ça dépend de sa forme, parfois, Méafou.
Oui, mais bon.
Bielbiaré et Ramos, les deux talonneurs. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Je rajouterai Moefana. Moefana, parce qu'il est titulaire depuis 2 ans, maintenant au centre, qu'il a un punch que. Peu ont, même si d'autres ont d'autres qualités, mais un punch vraiment que peu ont. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il ne faudra pas oublier Broboiri.
C'est pas ce que je vous dis.
Je suis d'accord. Mais
Moi, je pense que c'est le sens de la question.
Moi, je pense que Broboiri est pour moi aujourd'hui le titulaire indiscutable au centre. De ce qu'il a fait encore cet été, de ce qu'il a fait au dernier tournoi, il va encore gagner de l'expérience cette saison avec la section paloise. J'ai du mal à imaginer comment on peut enlever Fabien Broboiri. Dans les qualités défensives qu'il a aujourd'hui, dans le qualité de jeu qu'il peut avoir et qui est bien différente de Moefana. Pour moi, Broboiri aujourd'hui, j'en aurais presque mis titulaire indiscutable à la Coupe du Monde.
Mais si tu mets Moefana, moi, là, après, on va soulever la question. Intamac, Jalibert, peut-on les faire jouer ensemble? Si on met Jalibert à l'arrière,
Sois patient.
Oui, pardon, je vais trop vite. Ouais, mais ça, c'est-à-dire.
Mais plutôt Maramos, quoi. T'as dit que Ramos
était ça vient ensuite. Cédric. Je vous ai dit, les garçons, ça vient ensuite. Ne commencez pas, attendez. On reste sur les centres, justement. Moefana, Cédric, est-ce que Broboiri.
Sûr, valeur sûre.
Oui. Mais, Broboiri, ça veut dire qu'il faut en faire jouer un en deuxième centre.
Eh oui. Et donc, tu veux pas rentrer dans le débat, mais Jalibert, pas Jalibert. Voilà.
Au centre?
Ouais.
Non.
Mais pourquoi non?
Et parce que c'est pas la question déjà, on va le voir après. On a déjà une balance sur le poste.
Jalibert au centre, Cédric.
Alors, vas-y, Julien. Vas-y, Julien, fais-toi
centre,
plaisir.
Second centre.
Ouais, face à Krill et Aliendé. C'est ça?
Moi, je vous le dis, ça peut se tenter. Ça va se tenter.
Il nous met des nœuds dans le cerveau qui n'étaient pas prévus, Cédric.
C'était pas prévu, ça.
Bon, écoutez, moi, je suis d'accord avec Julien sur le Broboiri qui est époustouflant depuis. Plusieurs mois depuis cet hiver en équipe de France, mais c'est vrai qu'ils ont tous les deux le profil de premier centre avec Moefana.
Oui.
Donc, même s'ils peuvent jouer ensemble, Julien, est-ce que Broboiri peut jouer deuxième centre ou c'est Moefana qu'on met deuxième centre?
Non, Broboiri l'a fait à Pau, il peut jouer deuxième centre.
Il peut jouer deuxième centre.
Et deux porteurs, vous en faites quoi?
Non, mais ce que j'allais dire, pour moi, Broboiri deux porteurs est une paire idéale au centre, pour moi.
Donc c'est ta paire titulaire et tu enlèves Moefana. Ah.
Et je mets Moefana sur le banc. Alors après, ça dépend le banc.
Mais tu peux pas, c'est l'assurance du milieu de terrain.
Oui, c'est ça.
Parce que toi, ta paire de centre, Cédric, c'est
Moefana, Jalibert. Moefana, pardon, Jalibert.
Oh ben, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est le.
Moefana, Jalibert. Voilà.
Et ça fait. T'as vu, ça fait riffaner Julien Landry, carrément.
Ben oui, mais il a le droit. Hein. Il a le droit aussi de ne pas connaître le rugby. Hein.
ça fait penser à Richie Mwanga. Tu vois, c'est pareil.
Parce que tu es obligé de mettre Ramos. Donc si tu mets Ramos sur le terrain, tu mets. Bon, on en parlera après.
D'accord. Bon, il y a gros débat au centre et c'est pas fini, mais c'est vrai que je pense que Moefana par son impact et Broboiri par son talent sont indiscutables. Mais on a une telle plaie, mais on oublie Barassi,
on oublie
Calvin Gourgue. Et puis tu peux faire un Broboiri Calvin Gourgue au centre. Hein.
Aussi, c'est incroyable le réservoir au centre que l'équipe de France a.
Ah ouais, c'est incroyable.
Et du coup, on en parlera, mais c'est pour ça que Gaël Ficou ne sera pas à la Coupe du Monde, malheureusement pour lui.
Ah ben, je pense que malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, oui.
Ouais. Je pensais que sur le papier, oui, il peut se passer beaucoup de choses, des blessures, des choses comme ça, mais sur le papier, il part de Gaël, part de très très loin à ce moment-là, malgré ses 98 sélections.
Puis changement de club durant l'été, tu vois. Là. Oui. Donc, nouveau club.
Et puis regarde, même pas appelé cet été, ils ont pris Auguste Cadeau, le Montpellierin.
Mm-hmm.
Donc, tu te dis que même
je pensais qu'il allait l'appeler cet été, tu vois.
Oui, moi aussi, je pensais que cet été pour la santé.
Même si c'est pas l'école des fans et tu fais pas des sélections.
Ça veut dire qu'il est derrière les deux Palois. Les deux Bordelais et peut-être même aujourd'hui derrière Auguste Cadeau. Donc il est huitième dans la hiérarchie au centre peut-être aujourd'hui. voire même plus loin. Puis, donc,
peut-être que Galtier l'a appelé, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il l'a appelé pour lui dire.
On a eu Gaël Ficou pour le coup, justement, sur RMC, sur l'antenne de RMC dans l'émission Intégral Sport, et il a dit qu'il était très souvent en relation avec Fabien Galtier. Que voilà, que en gros, mais c'est, ça valait surtout pour le tournoi, qu'il ne voulait pas appeler Gaël pour porter les boucliers à Marcoussis. Mais c'est vrai que tout le monde se disait, tiens, il va sûrement l'emmener au championnat d'Europe des Nations, au championnat du monde des Nations cet été en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. Et ça n'a pas été le cas, c'est vrai. C'est pas forcément un bon signal. On verra pour la suite. Il y a un autre poste où c'est un peu la guerre, entre guillemets, messieurs, c'est la troisième ligne, que ce soit troisième ligne ou numéro 8. Est-ce qu'il y a des gens qui partent de manière sûre, selon vous, Cédric?
Je longe.
Oscar Jégou.
J'ai dit Cédric.
Ouais. Je longe.
Je longe, j'ai répondu après. Pour moi, Oscar Jégou.
Olivon, hein. Olivon pour moi.
Alors,
c'est sûr.
Je longe. Olivon, Jégou. Oui.
Moi, Aldrit, grosse question.
Voilà. Quid de Grégory Aldrit, même si, messieurs, en numéro 8. Personne ne sait. Alors, c'est Anthony Jelonge qui a joué le plus souvent en numéro 8 cette saison. On a eu Gazzotti, on a eu même Romat cet été.
Ouais.
Donc.
Lucci peut jouer en 8.
Mais est-ce que pour vous, un 8 indiscutable se détache de cette saison passée?
Moi, le seul pour moi, c'est Jelonge. Aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Hein. Mais pour moi, il peut y avoir une grosse surprise avec Gazzotti. Ça peut être la très, très grosse surprise.
Ouais. Qui a fait d'énormes progrès. Hein.
Ouais. Et après, dans une belle rotation, c'est vrai que Roumat, pour moi, est dans une belle rotation. Mais je ne sais pas ce que Aldrit va faire. Du moins, va faire. Lui, il va tout faire pour y aller. Hein. Mais quel joueur on va avoir pendant cette saison?
Voilà. Julien?
Si il est en canne, c'est peut-être un titulaire. Ouais.
J'ai beaucoup de doutes sur Jelonge.
Est-ce que c'est un 8? C'est ça?
Non, mais c'est encore une grosse blessure. C'est quoi, le troisième genou là pour Anthony Jelonge?
Non, mais c'était l'épaule.
Oui, là, c'est l'épaule, mais ça fait beaucoup de blessures, tu vois. Je ne sais pas comment il va revenir. Voilà, je trouve que c'est beaucoup. J'ai du mal à avoir retrouvé le vrai Jelonge impactant comme il a pu l'être. Gazzotti, il a été très, très bon cet été. L'association Gazzotti Jégounouchi, c'est l'association qui a été
champion du monde
des moins de 20. C'est les champions du monde des moins de 20. Alors après, évidemment, il ne faut pas oublier les Olivon, on ne peut pas oublier François Cross, tout ça.
L'expérience.
Mais les trois, pour le coup, sont hyper complémentaires. Et puis, tu sais ce que ça apporte. Donc, pour moi, les trois jeunes, ils seront Jégounouchi, Gazzotti.
Nouchi, tu es sûr à 100%?
Non. Oui, Nouchi... Nouchi, ils adorent son profil en équipe de France. Il a vraiment des grosses qualités. Bernard Laporte en parle souvent avec Fabien Galtier. Et même Bernard Laporte est impressionné par ce qu'apporte Lenny Nouchi. Je pense qu'il y sera. Après, là, pour le coup, Nouchi, ça dépendra effectivement de sa saison avec Montpellier. Si la saison avec Montpellier n'est pas bonne, Nouchi n'y sera pas. Mais s'il réitère la saison qu'il vient de vivre, Nouchi y sera. Pour moi, Jégou y sera. Gazzotti avec Bordeaux y sera. Et après, est-ce qu'on emmène un Olivon?
Mais le titulaire, c'est quand même Cross Olivon.
Oui, mais Olivon, est-ce que tu le considères aujourd'hui comme un troisième ligne? Ou dans l'esprit de Fabien Galtier, il est devenu un deuxième ligne en puissance?
Oui, mais tant mieux pour lui,
ce
profil
hybride. Oui, bien sûr.
Ben oui. Ouais, mais attention, d'être super, super polyvalent, super bon. Hein.
Oui, et vous, est-ce que vous avez un doute sur François Cross?
Moi, non.
Si vous allez moins citer... Non, d'accord, parce que...
Non, pour moi, François Cross est... Il a le profil idéal, mais j'ai trouvé tellement fort Jégou.
Mais pour le coup, Jégou est sur cette saison un titulaire indiscutable.
Oui.
Cette saison écoulée. On est d'accord. Vous citez pas Boudéan.
Boudéan.
Paul Boudéan, oui.
Ouais, Boudéan, il a disparu depuis un an. Voilà, c'est pareil. Là,
ça va vite.
Boudéan était le meilleur. Oui, ça va vite. Boudéan était le meilleur français du tournoi il y a du coup 18 mois. Il avait été le meilleur français du tournoi. Il a disparu. Remplacé par un Jégou, tu l'as dit, qui est peut-être le meilleur français des dernières semaines. Et c'est vrai qu'au bout d'un, aujourd'hui, il a glissé dans la hiérarchie. Aldrit n'est plus là. Je pense qu'il y a deux postes où c'est très compliqué pour le sélectionneur de faire des choix aujourd'hui, c'est troisième ligne et centre. Je pense
qu'on peut rajouter Michael Guillard. Hein.
Quand, quand tu mets troisième ligne, c'est toute la troisième ligne, c'est les deux, trois lignes.
Parce que je trouve que les joueurs, ils sont aujourd'hui polyvalents. Tu vois, je te parlais d'Anouchi qui peut jouer 6, 7, 8 à Montpellier. Gazzotti, ils peuvent arriver à tous être très polyvalents finalement. T'as parlé d'Olivon en plus qui peut monter deuxième ligne. On a aussi des Guillard a joué numéro 8. Après, moi je suis pas convaincu que.
Non, Guillard, il a fait un test à mon avis et ça n'a pas été concluant.
Cédric, est-ce qu'on a besoin dans une Coupe du Monde de l'expérience d'un Grégory Aldrit?
Oui. Oui, mais c'est toujours pareil. Pour quel rôle? C'est son expérience pour rassurer le groupe, pour amener de la sérénité, pour jouer des fins de match. Voilà. Mais moi, j'ai envie d'avoir un Grégory Aldrit titulaire indiscutable. Après, c'est le choix. Quand tu fais une composition de groupe pour partir en Coupe du Monde, tu dois penser à ton 15 titulaires, t'es plus tes remplaçants, et après, la vie de groupe. Et des fois, tu te dis, est-ce que je prends un perturbateur ou je prends quelqu'un qui rassure? C'est pas toujours évident. Hein.
Parce que
dans une vie de groupe, ça peut exploser. Hein,
ça peut être une frustration pour lui.
Et oui, exactement. Lui, comment si on lui présente les choses, comment en lui disant, tu seras pas aujourd'hui, t'es pas le titulaire, mais on a besoin de toi. Tu vas finir les matchs, tu vas amener de la sérénité au groupe. Est-ce qu'il va accepter ce rôle-là?
Toute proportion gardée, le Thierry bien Henry sûr. Au foot en Afrique du Sud en 2010, qui toute proportion gardée évidemment, mais par rapport à Grégory.
C'est plus facile d'amener par exemple un Gazzotti où tu lui dis tu prends de l'expérience et tu prendras les minutes qu'on va te donner, qu'un Aldrit de l'amener en lui disant on sait pas ce qu'on va te donner quoi. Alors après Aldrit il a peut-être envie d'y aller et prendre que ce qu'on lui donne, mais
je pense que c'est plus Aldrit facile peut de faire mal à la tête
à un jeune.
Oui. Et en plus, il peut te faire mal à la tête quand tu. Bon, on espère tous, on est d'accord, hein, parce que si c'est est forcément très écouté, ce qu'on est en train de dire,
forcément.
On veut qu'il soit titulaire, et indiscutable et qu'il soit au meilleur de sa forme. Mais s'il est remis en question et challengé par des jeunes, lui, il peut te donner mal à la tête parce que s'il vient à faire des matchs de poule, rentrer en fin de match et qu'il est très très bon, t'as mal à la tête derrière après pour arriver en quart de finale, demi et finale.
Mais déjà, il faut qu'il revienne. Faut voir sa saison, comme tu l'as dit, à La Rochelle et la saison en bleu. On laisse les troisièmes lignes derrière. On passe à la charnière. Alors, évidemment, vous allez être contents. Alors, ils rigolent déjà, les deux. Entre Jalibert, qui a disputé le tournoi.
Il n'y a pas de problème, regarde, c'est un centre.
Laissez-moi
finir. Jalibert aujourd'hui.
Soyez. Sage, cherchez mon mot. Et entre Jalibert qui a disputé le tournoi et Ntamack qui était 10 cet été, qui est revenu très fort, il faut le dire, on fait comment? J'avais une peur un peu pour les mois qui viennent, pour Mathieu Jalibert, d'être un super sub, justement, comme on disait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il a envoyé un signal à la fin des matchs de cet été en disant « Moi, je suis un demi d'ouverture, hein, je ne suis pas un arrière ». Il l'a dit comme ça, je trouvais, Cédric, que ce n'était pas anodin qu'il dise ça.
Oui, parce qu'il veut se positionner. Et il veut se positionner en 10, donc ça veut dire que ça amène beaucoup plus de challenge à Romain Ntamack. Il a été très bon. Moi, je trouve qu'il a progressé mentalement, même dans un rôle de super sub. Je pense qu'aujourd'hui, avec la maturité qu'il a, la mentalité qu'il a, il peut remplir ce rôle-là. Mais moi, je le veux sur le terrain. Du moins, je souhaite qu'il soit sur le terrain. Donc, il faut lui faire une place. Si c'est à la place de Romain Ntamack, est-ce qu'avec le retour de Romain Ntamack, qui a été performant, mais pas ultra performant lors des derniers matchs, Jalibert à l'arrière m'a plu parce qu'il est venu dans ce rôle un peu de Thomas Ramos, deuxième 10, quand il y a des inversions de jeu. Donc Jalibert, j'ai réellement envie de le voir sur le terrain. Donc, il y a une équation à trouver. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de le mettre au centre, parce qu'à l'arrière, tu mets Ramos, c'est une certitude, tu ne peux pas le mettre à l'aile, donc second centre, c'est sa place. Et on sait qu'il a progressé parce qu'il a un entraîneur spécifique à Bordeaux en défense. Maintenant, est-ce qu'il amène la grande
et
assurance?
Pourquoi pas Jalibert en 12 et Jalibert en 10 et Ntamack en 12, comme ça.
Et on se prive de. Vous avez vu tous ceux qu'on en a cités au centre?
Bien sûr.
Julien, alors je vais dire à Cédric, moi je l'ai trouvé très très fort, Ntamack, sur les dernières semaines quand même. Hein, tu disais
Moi aussi.
Moi j'aimerais qu'il pèse plus sur le jeu. J'aimerais qu'il. Parce qu'il a beaucoup de talent, c'est un très grand joueur. Mais il me manque ce côté un peu folie que j'attends et que j'aime plutôt du côté de Jalibert.
Julien, tu fais quoi?
Je pense qu'on a les deux meilleurs 10. Pourquoi on ne pourrait pas avoir deux 10? Et en fonction du match, on alterne. On a un 10 plus gestionnaire avec Romain Ntamack. On parlait tout à l'heure. Honnêtement, sur le match contre l'Afrique du Sud, Mathieu Jalibert, même s'il a beaucoup progressé en défense, ça te met un nœud au cerveau défensivement parce que tu sais qu'il va se faire cibler par les centres, par les troisièmes lignes. Après, on va dire que je fais ma petite lubie, mais il va défendre en, tu vas être obligé de défendre en 13-2. Lui, il va jamais défendre en 10. Donc, tu vas être en adaptation permanente. Donc, tu joues l'Afrique du Sud. Eh bien, tu mets Romain Tamak à l'ouverture parce que tu sais qu'il a les garanties défensives. Et tu joues contre la Nouvelle-Zélande où le jeu est plus ouvert et tu peux mettre Mathieu Jalibert en 10. Et en fonction du scénario du match, t'alternes.
Mais est-ce qu'on sait faire
pourquoi
ça
on s'interdirait, nous, la France, d'avoir deux numéros 10?
Non, mais on s'interdit pas. Mais il y a la gestion. Je pense qu'un Romain Tamak ou un Jalibert, lequel est plus apte à entendre que tu joues les Sudaf, c'est un Tamak, tu joues les Blacks, c'est Jalibert. Est-ce qu'ils sont capables de l'entendre? Est-ce qu'on est capable de leur expliquer que...
Cédric, j'ose espérer qu'ils ont envie d'être champions du monde.
Mais,
Et que tu es champion du monde, même si tu es un peu remplaçant,
on
t'es quand même champion du monde.
C'est quoi? C'est projet d'équipe, projet individuel. Oui. Le but, c'est quoi? C'est d'être champion du monde. Donc, c'est tous ces joueurs au service de l'équipe.
Cédric, il faut leur montrer ce qu'a fait l'Afrique du Sud en 2023.
Ben oui.
En changeant avec une charnière en quart et en demi et une autre charnière en finale.
Oui, mais ça, en France, mentalement, on n'éduque pas. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est comme ça et point. Nous, on est trop cérébral, trop latin. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, donner des raisons. Sans arrêt, on se prend la tête. Je suis d'accord avec vous. Si on dit que pour des garanties face à des grosses équipes, des gros porteurs, où on se fait agresser au milieu de terrain, qu'on mette un Tamak, moi je suis d'accord avec vous. Et quand on doit jouer, mettre plutôt Jalibert. Mais il faut leur expliquer, il faut être franc d'entrée en disant voilà, le projet de l'équipe c'est d'être champion du monde. Vous, le projet individuel un peu plus en retrait, mais il faut l'expliquer et être capable de le tenir quand ça arrive.
Et puis je me dis, contre l'Afrique du Sud, tu mets Jalibert sur le banc de touche. En lui expliquant, comme dit Cédric, et qu'à l'heure de jeu, ben, c'est compliqué, tu fais rentrer Mathieu Jalibert ou en 10, ou aujourd'hui il a cette polyvalence d'être numéro 15 comme il a prouvé, tu peux aussi apporter de la folie en fin de match avec Mathieu Jalibert. J'ose espérer quand même que, comme le dit Cédric, le projet collectif va l'emporter en se disant aujourd'hui, on a peut-être ce qui se fait de mieux au monde en numéro 10 avec les deux, ça serait fou de se dire oh, on s'en prive d'un parce que c'est trop compliqué à gérer.
Mais tu peux faire la même chose à la mêlée. Tu peux faire. Bon, t'as Antoine Dupont qui est ton capitaine, qui sera le titulaire indiscutable.
C'est un peu plus difficile, non?
Oui, c'est plus difficile, j'entends. Mais acceptons de le faire sortir peut-être un peu plus tôt pour donner plus de jeu, pour changer les charnières, pour amener du sang frais. Tu vois, tout ça, il faut que ça soit expliqué et compris. Parce que le projet commun, c'est d'être champion du monde.
Par contre, vous avez évoqué Mathieu Jalibert et Romain Tamak en 10, mais jamais en 15. Hein.
Jalibert en
15. En 13, mais... Jalibert en
13. Non, mais
il y a Ramos en 15.
Mais parce que
il y a Ramos en 15.
Ça a été évoqué.
Mais non,
il a évolué aussi en 15.
Et si on est fou, on met Jalibert en 15 et on fait monter Ramos en 10. Dis-moi, c'est le sujet du moment, non?
Les gens ont mal à la tête. Non, mais vous le voyez pas du tout en 15. Cédric?
Il est intéressant. Il est intéressant.
Non, mais on a le meilleur buteur du monde. Et en Coupe du Monde, tu es champion du monde avec un buteur de classe internationale. Et tu as le meilleur buteur qui est mis au monde.
Jalibert, quand il joue en 15, c'est un deuxième 10. Du moins, il vient impulser, renverser ce que fait Thomas Ramos très très bien. Et en plus, Thomas Ramos, il est buteur, meilleur buteur du monde. La place, elle est prise.
C'est réglé. Les grosses cotes pour vous, si je vous dis Atis Ogbe et Grand Didier, grand vainqueur de ce mois de juillet.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils amènent surtout? Julien, tu parlais, tu taquinais un peu avec des ballons hauts. Tout peut changer avec des joueurs de ce profil pour l'équipe de France, Julien.
Grand Didier, je sais pas. Pour moi, Grand Didier, il part de loin, même s'il a fait...
Atis Ogbe est plutôt devant, ouais.
Je pense qu'Atis Ogbe est devant.
Parce que l'autre côté, ce sera Biel Biarré.
Il y a Biel Biarré, il y a une aile qui est prise. Atis Ogbe t'offre la garantie de jouer ailier et arrière. Grand Didier est un simple ailier qui, en plus, pour le coup, va t'apporter beaucoup sur des équipes qui vont te jouer les couloirs, qui vont te jouer des ballons hauts, ce que toutes les équipes ne font pas. Tu n'as pas joué l'Afrique du Sud tous les matchs. Donc, je pense que pour moi, Grand Didier, il part de loin. Je pense qu'Atis Ogbe, aujourd'hui, de par sa polyvalence, de par ce qu'il apporte sur le terrain, parce qu'il a toujours été très bon en équipe de France, n'oublions pas, il marque, c'est le deuxième meilleur marqueur d'essai derrière Biel Biarré sur le dernier tour à destination. Donc, pour moi, Atis Ogbe, aujourd'hui, peut même être titulaire à l'aile à la place d'un Penaud qui, moi, part de très loin aujourd'hui. Pour moi, les ailiers titulaires aujourd'hui, c'est Biel Biarré, Atis Ogbe en équipe de France.
Ça,
je suis d'accord.
Question Cédric, c'est vrai que Damien Penaud se gratte la tête, certainement.
Oui, je l'ai croisé en plus cet été. Je l'ai trouvé très affûté. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il a fait un gros
vous
travail.
Vous êtes mis face à face?
Bon, bah, moi, face à face.
C'est pour ça que tu l'as trouvé à côté. Ouais.
On va loin, Cédric. On va loin.
Bah, on va dire, tu sais, je tournais autour pour pas qu'il m'attrape. Tu vois.
Affûté et dans l'état d'esprit.
J'ai trouvé très affûté. Il est conquérant. Il sait que il a dû se remettre au travail. Il bosse. Là, je l'ai senti déterminé et affûté. Il sait qu'il y a des joueurs qui sont passés devant. Mmh. Il en est conscient, mais pour lui, il est convaincu qu'il va faire une grosse saison.
Et ça, il t'avait dit, mais t'en parles pas.
Non, parce que j'ai rien dit de. J'ai rien dit. Je vais pas dire ce qu'il pense de toi, parce que ça, il m'a dit, t'en parles pas.
Bon. Non, mais trop de lacunes défensives pour moi, Damien Penaud, aujourd'hui. Il n'apporte pas les garanties dont tu as besoin au niveau international.
C'est de l'investissement mental, il s'est plaqué.
Oui, je suis d'accord. Ouais, mais.
Non, mais vous pensez, du moins, je suis désolé, mais je peux vous le dire, je l'ai vécu, moi. Donc, quand tu te le mets dans la tête et que tu t'entraînes un peu et que tu demandes à faire des rappels de défense, c'est mental. Parce qu'il s'est plaqué, il suffit qu'il se le mette dans la tête. Moi, j'ai l'image de Damien Penaud sur des hauts ballons, sur des coups d'envoi, à aller plaquer, à être très fort. S'il a envie de le faire, il est capable de le faire. Il faut qu'il ait envie de le faire.
Il n'y a pas que ça, Cédric. On l'attend sur le jeu aérien, oui. Évidemment.
Oui, le jeu aérien, dans le dézonage, beaucoup de choses. Mais sur la défense, c'est mental.
Moi, je trouve que ça manque de constance, Cédric. Pour Fabien Galthié, je trouve que parfois, c'est...
Ah, mais il ne doit pas le rassurer.
C'est looping dans l'agence tout risque pour moi, Damien Penaud, des fois.
Ah, tu vas trop
loin.
C'est
que parfois... Psing, non, mais des fois, il est plus connecté. Et il y a un joueur qui est plus connecté
Damien,
dans
peut-être
la...
Pas, peut-être pas looping. Hein.
C'est non, peut-être pas looping, mais je veux dire.
Il commence fort. Ça va être déformé, ça.
Il commence fort, notre Daniel Riolo du podcast.
Ah oui, grave, il est en forme.
Oui, il est en forme. Les chantiers. Messieurs, alors évidemment on n'en a pas parlé, mais le poste de pilier droit, quand on voit, et on finira avec ça, l'Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande de ce week-end, le poste de pilier droit, est-ce que c'est Cédric, c'est la clé d'un titre de champion du monde?
Ben, je sais pas, regardez la Nouvelle-Zélande, ils se sont fait
ouvrir pendant deux tiers du match.
Pendant,
ouais.
Allez, 60 minutes, 65 ouais. minutes, ils ont changé, ils ont calé cette mêlée, ils ont gagné. Donc, je veux plus entendre no scrum, no win, hein, ça c'est pas possible. Non, mais nous, c'est un vrai chantier. Ouais. Il y a Allegri qui est là, il y a Georges-Henri Collomb, il y a Régis Montagne, tu as raison. Il va falloir trouver une solution et travailler, peut-être trouver une pépite qui monte. En tous les cas, c'est un vrai point d'interrogation sur ce pilier droit. Hein. Ça, c'est une certitude. On n'a toujours pas remplacé ce qui se faisait de mieux avant. Quoi.
Julien, on voit pas la... Enfin, Régis Montagne monte en compétence, on va dire. Demba Bamba souffre toujours un peu d'indiscipline, ce qui est son problème au niveau international. Mais voilà, c'est trouver une pépite, trouver une solution. On
ne
construit pas
un
pilier droit international comme ça, Julien.
Non. Je pense que si on n'a pas solutionné ce problème, ça sera compliqué. Parce que même si les règles internationales font qu'il y a de moins en moins de mêlées, te faire pénaliser à chaque fois sur cette phase de jeu-là contre l'Afrique du Sud ou contre des packs plus dominants, ça sera compliqué. Sauf que la solution à droite, je ne la vois pas aujourd'hui émerger. Alors Montpellier va tenter le pari Christopher Tolofua, mais en 9 mois, ça me paraît, comme tu l'as dit, ça me paraît court. Alors c'est un vrai joueur de mêlée, Christopher Tolofua, mais il faut qu'il apprenne tout. Et puis il va partir 3e dans la hiérarchie, derrière deux Montpellierens qui auraient pu être d'ailleurs en équipe de France, Oung Patin et Awas, mais on sait les raisons qui font qu'ils n'y sont plus. Aujourd'hui, il n'y a personne à droite qui se dégage pour te dire...
Non mais en plus, en 8 mois, c'est 8 mois pour qu'il soit à l'aise en championnat.
Oui, en plus.
Mais pas au niveau international.
Pas au niveau international. Non,
c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut trouver notre pilier droit dans ceux qu'on a cités, en fait.
Ben voilà. Oui.
Et Régis Montagne est le plus avancé, on imagine.
Oui, je crois.
Voilà. C'est tout, Cédric?
Non, moi, voilà. Puis la mêlée, ouais. Voilà,
ouais. Bon, il y a une chose dont je voulais vous parler aussi au niveau du jeu. Est-ce que parce qu'on a le sentiment, on l'a vécu avec Julien, mais aussi Cédric, hein, de ces derniers mois, voire depuis la Coupe du Monde en France, il y a un changement dans le jeu d'équipe de France. Est-ce que le tout offensif, c'est un risque à prendre, Cédric, quand je dis tout offensif, c'est-à-dire qu'on laisse des plumes en défense? On en a pris 34 en Nouvelle-Zélande cet été, 26 en Australie, et 50 en Écosse, 46 contre l'Angleterre, avec des fois des victoires, des fois des défaites. C'est un déséquilibre à assumer?
Oui, oui, assumé. Après, chaque Coupe du Monde a sa vérité. Il y a eu des Coupes du Monde complètement fermées où c'était la dépossession qui te faisait devenir champion du monde un peu en, 2007. Il y a eu la Coupe du Monde d'Angleterre qui était totalement ouverte où il y a eu des gros, gros matchs. Je pense aujourd'hui que tenir le ballon 3 temps, 4 temps, tu t'épuises vraiment. Donc cet équilibre-là, il est dingue. Ce qui est dangereux pour notre équipe, c'est qu'elle prend des points. Donc aujourd'hui, on a la capacité à en marquer un peu plus que les autres. Donc on gagne les matchs, ça c'est une vérité. Mais c'est inquiétant parce que dans les matchs serrés, si t'as pas une assise en conquête et en défense, c'est quand même compliqué. Je suis pas alarmiste, le fait qu'on prenne des points, mais attention, petit point de vigilance quand même.
Julien, à la sortie du tournoi, Thomas Ramos disait, on prend trop de points, ce sera sans nous à la Coupe du Monde si ça reste comme ça.
Mais moi, je suis persuadé qu'il a raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que le staff de l'équipe de France cherche à récupérer Geoffrey Doumerou, l'entraîneur de la défense de Montpellier, qui est la meilleure défense du top 14. Geoffrey Doumerou a mis en place une défense très agressive, un peu à l'image de ce que fait les All Blacks. Et les Sudaf, je veux dire.
Et oui.
Autant, tu peux pas être... les Sudaf.
Sois précis.
Mais tu ne pourras pas être champion sans une défense de fer où il va falloir tenir les possessions adverses. Tu peux pas tu gagneras pas les matchs toujours 48-47. Hein. Ça arrivera pas.
En Coupe du Monde, non.
Non, mais c'est sûr. Mais si tu n'es pas très efficace sur tes 2-3 premiers temps de jeu, tu vas être obligé de rendre le ballon parce que c'est trop énergivore. Donc après, sur ces ballons que tu vas rendre, si tu n'es pas clinique, mais tout le monde se dit la même chose. Hein. C'est 3 temps de jeu, tu n'as pas fait la différence, tu renvoies le ballon au fond et tu défends. Mais moi, mon côté plutôt attaquant me dit soyons très cliniques et très efficaces sur tes 2-3 premiers temps. Tu te fatigues moins, tu marques vite et puis voilà.
Mais on a vu plus d'audace, Cédric, cet été à certains moments.
Ah oui, mais c'est sûr. Mais moi, ça, j'en suis convaincu que ça va passer par là.
On a les joueurs pour ça, qu'on a cité tout au long de ce podcast.
Ah oui. Je vois une Coupe du Monde ouverte, mais il faut qu'on donne la liberté aux joueurs de sortir du cadre.
On finit avec un petit mot sur le premier des 4 tests entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Match surprenant, Cédric, hein, parce qu'on a vu les Blacks en difficulté pendant 2/3 du match. Et on finit avec un, parce que évidemment, ce sera la trame aussi de cette année, suivre les nations du Sud. Déjà, Cédric, bonne idée. 4 matchs comme ça de suite, ça fait, puisque maintenant il y a un 8e de finale en Coupe du Monde, ça fait un peu justement 4 matchs de phase finale. Il faut s'habituer à haute intensité. Et bonne idée de la part des Sud-Africains et des Néo-Zélandais de ce côté.
Oui, puis ça fait quoi, 30 ans qu'il n'y avait pas une énorme tournée comme ça, je ne veux pas dire de bêtises, des All Blacks en Afrique du Sud. Très bonne idée, ils vont pouvoir se challenger, travailler beaucoup de choses. La haute intensité, il n'y a rien de tel pour se rassurer ou qui révèle tous tes points faibles. Et après, si on revient sur l'analyse pure du match, j'ai trouvé les All Blacks lents pendant une heure de jeu. Allez, je veux dire, un peu moins d'une heure de jeu, sans solution. Avec la possession, mais pas l'occupation, je me suis dit, ils vont jamais s'en sortir. Sur toutes les mêlées, ils se faisaient ouvrir en deux. Et puis, changement tactique, cette mêlée qui se met à tenir. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais la mêlée dans les 22 mètres All Black, ils prennent pénalité, touche. Ouais. À 5 mètres. Touche, pénalité, contre.
Ils gagnent la pénalité après derrière.
Exact. Ouais. Contre. Et puis voilà, donc les All Black. Sans ballon, ils ont été meilleurs qu'avec, quoi.
Et moi, j'ai trouvé les Sud-Africains un peu pauvres dans le jeu, quoi, pas plus de 2 passes. Mais Cédric, Julien a une théorie là-dessus. Il a une théorie qu'il va nous donner.
Déjà, je trouve que c'est pas une bonne nouvelle que la Nouvelle-Zélande gagne en Afrique du Sud, parce que dans notre idée, on battait l'Afrique du Sud, on était champion du monde. Donc maintenant, si on veut être champion du monde, il va falloir battre et l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, ce qui va rendre les choses quand même plus compliquées. Non, c'est pas une théorie, mais je me dis que à un an de la Coupe du Monde,
mais connaissant là,
Erasmus,
non,
je disais, à un an de la Coupe du Monde, connaissant Erasmus, je me dis qu'il est capable de cacher des choses, de pas tout dévoiler des projets de l'Afrique du Sud. On se rappelle.
Qui gagne quoi.
Non, mais on se rappelle de ce qu'il avait fait à la Coupe du Monde.
D'être minimaliste dans le jeu, là, exprès.
Oui, de
pas
montrer le minimum. Et par exemple, contre la France, cet arrêt de volée
qui
s'était transformé en mêlée.
Il est chez lui face au Black. Il ne peut pas ne pas se... Je suis d'accord avec toi sur...
S'il est triple champion du monde, Cédric, tout le monde aura oublié qu'ils ont perdu ce match-là contre...
On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour lui, c'est une tournée monstrueuse pour taper un grand coup sur la table. Je ne vois pas qu'il soit en train de cacher des choses. peut-être qu'il est dans sa réflexion un système de jeu différent pour la Coupe du Monde, ça je te l'accorde, mais pas là. Pas là. Là, il s'est fait prendre par manque de finition, pauvre dans le jeu, que de la destruction. Ils sont retombés un peu à l'envers, quoi.
Pas ça, Julien.
Non, mais...
Ça va être sympa, chose d'être d'accord comme ça, que vous échangez comme ça.
La suite de théorie, c'est comme ça.
Ouais, je suis pas... Bah, on verra.
Non, mais il a déjà
annoncé,
on a
il a déjà annoncé son équipe aujourd'hui. Je pense qu'ils vont être piqués dans leur orgueil. Mais que samedi, ça va être d'un autre... Oui.
À un moment donné, indiscipline, quand tu joues... Ils ont joué à 13, hein, même, à un moment donné. Donc,
oui, à la fin du match, oui.
Donc, c'est pas possible. Les rentrants, ils ont rien apporté. D'habitude, il y a une bombe squat. Là, ça faisait toute la différence. C'était
Des joueurs étaient très décevants. Même Feinberg, Ngomezoulou, c'est fantomatique. Mais j'ai trouvé sans idée les box, quoi. Deux passes, pas plus. Et comme ils étaient contenus après dans la fin de match physiquement, bah, ils étaient sans solution. Mais c'est rare de les voir, Cédric, comme ça. Hein.
C'est... Honnêtement, quand tu regardes les 10 premières minutes, tu te dis ils vont passer un sale quart d'heure, les Blacks, avec quelque chose.
Des aliens, des Marx,
et puis,
quand ça tapait.
Exact.
Là,
tu te dis... Voilà. Et moi, je le regardais avec mon fils, il me dit, mais papa, tu les as joués, c'est costaud.
Tu lui as menti alors, tu as dit, oui, je les ai fait reculer, mon fils.
Non, j'ai dit, mon fils, je les ai gagnés, c'est pas pareil.
Ce qui est pas faux,
c'était
pas
d'une violence.
Pas ceux-là, pas les mêmes, mais des costauds quand même.
Non, c'était d'une violence, et puis après, pauvre. Pas de solution, et puis les Blacks ont fait ce qu'ils... Ils avaient le ballon, ils étaient... Pauvres, eux aussi, ils n'ont pas trouvé de solution, manque de vitesse. Et après, ils ont su contrer.
Un jour, il faudra que tu dises
la
vérité à tes enfants.
Ils nous battent en 2023 sans être géniaux dans le jeu en 2023.
Oui, on est d'accord.
C'est vrai.
On est d'accord.
Sur trois chandelles.
En nous faisant.
Sur une transformation. Et...
C'est ça. Ils n'ont pas besoin d'être géniaux, Cédric, pour le coup.
Mais sur des fondamentaux quand même présents.
Mais, oui, comme tu dis, ballon haut, fondamentaux, ils n'étaient pas à l'heure.
Ils sont toujours là.
Juste pour finir, Cédric, puisqu'on est sur cette... on vous a donné un petit peu des clés pour cette année avec l'équipe de France qui va nous mener jusqu'à la Coupe du Monde en Australie. Et on parlait de cette liste des 33 qui tombe à un moment, la liste couperée pour les joueurs qui vont en Coupe du Monde. Est-ce que tu as des souvenirs de cette journée, même si on y reviendra dans l'année, et dans un an aussi, de cette journée d'annonce, cette veille au soir, de cette nuit avant le... Alors tu as dit que c'était différent, toi, à chaque fois, 2003 où tu n'y étais pas, 2007 et 2011, mais est-ce que tu as des souvenirs, une petite anecdote?
2003,
comment t'as fait, t'as
pas
peu
d'appel.
Dormi
2003, pas d'appel. Et
pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Voilà, je me suis dit tout va bien. Puis que dalle. 2007, non, Jomazo m'avertit avant. Un jour avant, la veille, m'appelle pour me dire tu fais partie de la liste. Et 2011, j'avais fait une petite croix dessus et ça a été la surprise. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je l'apprends lors de la conférence de presse.
D'accord. Mais tu te souviens pas de stress un peu, juste la nuit d'avant, le soir,
parce que je pouvais plus rien faire. Je me suis toujours dit, de toute façon, maintenant c'est trop tard, donc je peux pas influencer, j'avais pas de stress. 2011, j'avais un espoir, mais je partais tellement de loin, je me dis, c'est pas possible. Et quand on me l'apprend, grosse surprise. Ouais. Là, c'est vraiment... Surprise et délivrance, parce que j'avais quand même fait beaucoup d'efforts pour essayer d'y revenir, et là c'est la délivrance. D'ailleurs, petit aparté, je pense que mon objectif c'était de faire partir du groupe, mais après j'ai laissé beaucoup trop d'énergie dans la préparation, les matchs avant, la Coupe d'Europe avec Toulouse, la fin du championnat... Je quittais Toulouse et en Coupe du Monde, j'étais mentalement un peu dans le dur. C'est pour ça, quand si on revient un peu sur le sujet, le premier sujet, la partie psychologique va être importante des joueurs qui sont comme ça, un peu en attente. J'y suis pas. Il faut arriver avec une forme mentale aussi très importante lors de la Coupe du Monde.
Alors, le conseil de Cédric à ces joueurs, justement, pour finir ce podcast?
Rien inventer, continuer à bosser. Se renfermer sur ses certitudes, couper un peu les réseaux, médias, faut qu'ils soient focus sur eux-mêmes. Beaucoup de sensations, s'écouter, parce que la Coupe du Monde, c'est une expérience incroyable à vivre, ça peut être l'expérience d'une vie. Cette génération, elle a déjà loupé, elle a déjà laissé passer le train une fois, je pense qu'elle peut être champion du monde. Donc, c'est focus et faire l'effort, c'est-à-dire toutes les petites tentations qui arrivent autour. Moi, ça arrive peut-être qu'une fois dans la vie. Donc, pendant un an, vous serrez un peu les choses et récup, hygiène de vie, mais s'octroyer aussi des bons moments, parce qu'une saison, c'est long Une préparation, c'est long. Il faut des moments de décompression.
Voilà, comme disait Roxane, qui est en régie, notre productrice. N'écoutez pas ce podcast hein, quand on vous appelle looping. Voilà, c'est pas. Vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête. Tout est possible encore.
Vous réinventez pas, sauf pour jouer 13, Mathieu Jalibert, quoi. Là, il faut qu'il se réinvente.
Ouais. Enfin bon, ouais, c'est vrai. Eh ben, écoutez ce podcast, alors réfléchissez. Merci Cédric.
Merci à vous.
Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine dans Entre les poteaux, avant d'avoir Entre les poteaux preview hein, de semaine de top 14, de week-end de top 14. Ça sera pour la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. L'année dernière, si vous vous souvenez, on avait fait les paris de la rédaction sur la saison de top 14. Montauban gagnera-t-il un match? Bielbiaré battra-t-il le record de Ashton?
Les théories de Julien vont-ils se révéler?
Eh ben, tu vois, on va passer sur le grillon. On va voir ce qu'on avait dit, ce que la rédaction rugby avait dit et ce qui s'est passé. Et on va refaire des paris avec toi, Cédric, pour voir ce qui se passera dans cette année de top 14. Merci, messieurs. On remercie les gens qui nous écoutent, nos auditeurs. Continuez à vous abonner entre les poteaux, à mettre des notes, à mettre des commentaires. Mettez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux. Venez nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé de Cédric et Julien, notamment. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez, merci, messieurs.
Il se met au-dessus de la mêlée, c'est fantastique.
Moi, je distribue les plats, hein, c'est vous. Hein, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.